Bonjour, c'est Freddy Highmore et vous écoutez Pop à Pop. Pop à Pop, c'est parti.
Pop-opienne, pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. J'étais parti pour vous faire une petite intro sur le thème de la procrastination, puisque c'est la journée mondiale, et je vous aurais une fois de plus bien fait rire en vous expliquant que j'avais remis au lendemain la rédaction de mon texte, eu égard justement à la fameuse procrastination. Et puis, une nouvelle bien triste est tombée et a coupé mes ardeurs. Scott Walker est mort 15 mois après Johnny, même si c'est là le seul point commun entre les deux. Avec aussi bien sûr le fait que Johnny aimait bien boire du whisky. Du Johnny Walker. Et nous voilà tous désolés, nous qui suivions de loin en loin la carrière fractionnée de cet artiste hors norme, vénéré aussi bien par David Bowie que par Alain Bashung, les Last Shadow Puppets ou Radiohead, source d'inspiration musicale bien sûr, mais aussi pour sa liberté absolue d'aller explorer les genres du plus classique au plus expérimental, en passant par des musiques de films ou l'interprétation de quelques titres de Jacques Brel à l'intention du public anglo-saxon. Scott, le marcheur, a arpenté mille et mille pistes, les éclairant toutes de sa science, des lumières. On a coutume de dire qu'à la mort de chaque homme, c'est une bibliothèque qui brûle. Avec celle de Scott Walker, c'est toutes nos discothèques qui viennent de prendre un sacré coup de napalm. Et oui, c'est aussi ça l'amour. Tiens, ça tombe bien, c'est le titre du film dont vient nous parler Bouli Lanner. C'est du coup notre morale. Eh ben, il reprend des couleurs. Allez, pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Bonjour Bouli Lanner.
Bonjour Antoine.
Et bienvenue dans notre studio. Je vous présente Charline.
Bonjour.
Bonjour Charline. Bonjour Charline, voici Bouli. Est-ce que Scott Walker n'aurait pas dû procrastiner sa mort? Qu'en dites-vous?
Bah, oui, lui aussi, mais avec bien d'autres. Oui.
Avec bien d'autres.
Hein. Oui,
oui. Enfin, c'est le dernier en date. Bien. Au menu du pop-up-pop du jour, on va parler du film de Claire Burger, C'est ça l'amour, avec vous, Bouli, vous y tenez le rôle principal. Mais avant ça, Bouli, ici, il existe une question qui peut faire encore plus mal que de se faire tatouer la carte de l'Écosse et une bouteille de whisky sur l'avant-bras, comme séparait-il votre cas. Et cette question, c'est... Pour vous, Bouli Lanner, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses boulinantes, lanercives ou totalement procrastinaliennes. Et parmi mes préférées, il y a celle d'Alex Lutz, qui vous a remis le prix d'interprétation masculine pour le rôle dont nous allons parler lors du dernier festival de cinéma européen des Arcs. Écoutez.
Je vois plein d'images. Je vois Bowie qui passe, ouais. Des albums, mais quand même de la BD, mais quand même Fluide Glacial, mais quand même On rigole. Mais quand même le fameux « On invite l'archevêque et la pute dans la même émission », mais bon, bah après l'après 68 et toute la culture, et quand culture et divertissement se sont un peu mariés.
Voilà pour Alex Lutz. Et pour vous, Bouli Lanner, c'est quoi la pop culture?
La pop culture, c'est un des élixirs qui permet de devenir vieux moins vite, ou con moins vite, ou mort moins vite.
Pas mal. Donc ça n'a pas marché sur Scott Walker?
Si, parce qu'il aurait peut-être pu mourir avant.
D'accord, je vois votre logique. Très bien. Ça y est, j'y suis. Impossible, dans une émission de pop culture, de ne pas rendre hommage à Scott Walker. Alors, comme premier morceau de l'émission, je vous propose d'écouter Make It Easy On Yourself. C'était avec les Walker Brothers.
So very hard to do. If you really love him, and there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings, just tell me that we're through. And make it easy on yourself. Make it easy on yourself. 'Cause breaking up is so very hard to do. And if the way can't compare to his grace. No words of consolation will make me miss you less, my darling. If this is goodbye, I just know I'm gonna cry. So run to him before you start crying too.
Les Walker Brothers, Make It Easy on Yourself, c'était en 65 sur l'album Take It Easy with the Walker Brothers, à l'époque où les faux frères californiens étaient venus défier les Beatles sur leur propre terre. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bouli. Bouli ? Ce Bouli ?
Un chapeau gris, une écharpe rouge, voilà Bouli avec son dîner rouge.
Ce bonhomme de neige qui ne fond pas à l'arrivée du printemps. Alors réponse avec son pop portrait. Alors oui, son pop portrait, ben c'est votre portrait, Bouli, mais
à base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Rarot.
Aujourd'hui, nous recevons un acteur-réalisateur qui fait rien qu'à se faire remarquer quand il est comédien, qu'il soit au premier, au second ou même au troisième rang. Et c'est d'ailleurs dans un rôle sans prénom, il était le chanteur, que personnellement il m'a frappé de plein fouet par sa drôlerie, son étrangeté, sa capacité à rester concentré dans une scène dont la longueur n'avait d'égal que l'incongruité. C'était évidemment dans Altra de Carverne et Delépine pour qui notre invité sera le collectionneur dans Avida, le recruteur dans Mammouth, le vigile dans Le Grand Soir. Et si vous vous posez la question, sachez que les deux Grolandais lui ont quand même donné un prénom. Dans Louise Michel, il était Michel Pinchon. Notre invité est aussi un habitué du cinéma d'Albert Dupontel, qui l'a fait tourner dans Enfermé dehors, Le vilain, Neuf mois ferme, de celui de son compatriote Benoît Mariage, qu'il a dirigé dans Les convoyeurs attendent, L'autre au cowboy. Et en d'autres termes, c'est un comédien dont le biotope se doit d'être singulier. On l'a aussi croisé chez Jeunet, chez Audiard, dans Grave, dans Petit Paysan. Et tout récemment chez Blié, et c'est d'un film à l'univers encore une fois très particulier qu'il vient nous parler aujourd'hui. Rendez-vous compte, il y est un homme qui élève comme il peut ses deux filles ados après le départ de Madame. Autrement dit, un héros pas comme les autres, à l'affiche de Pop 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 aujourd'hui.
C'est à peu près complet.
Oui, enfin, il manque une partie de ma vie quand
oui,
même.
Bah,
oui,
même.
Mais c'est déjà bien complet.
On
oui.
s'en tient au secteur professionnel. Alors, il se murmure que vous œuvrez également de temps en temps sous le nom de DJ Mauvais.
Oui, c'est vrai. Oui,
qu'est-ce que c'est cette histoire d'où ça vient
parce que je mixe extrêmement mal, mais par contre, je mets des bonnes plaques. Mais au moins, le constat, le postulat est clair. Bah, je rate tous les mix, évidemment.
Tous les enchaînements.
Ah oui, ils sont très mauvais.
Mais la musique est bonne.
La musique est très bonne.
Ah, okay.
Et donc, ça rachète tout. Et puis, comme c'est dit. On ne peut pas m'en vouloir.
Et vous chantez pendant les sets ?
Non, ça c'est
fini.
Sinon c'est pas fini, non, la carrière, j'ai toute ma carrière encore, non.
Alors DJ Mauvais, on va parler de musique, et pas seulement dans ce qui va suivre, c'est l'heure de votre pop-list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Bouli Lanners, pour le livre, votre choix s'est porté sur Lonesome Dove de Larry McMurtry, sorti en 85 et récompensé d'un prix Pulitzer. Charline, vous ne m'avez rien demandé, mais je vous le dis quand même. Larry McMurtry, le romancier, n'est autre que le père de James McMurtry, un excellent songwriter de pure Americana. Maintenant, dites-nous deux mots du papa Larry.
Eh bien, c'est de la grande littérature western. Lonesome Dove, c'est aussi le nom de la collection de quatre romans de McMurtry. Et McMurtry est également le co-scénariste du magnifique Brokeback Mountain.
Mm-hmm. Bouli, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes ?
Mais avec plaisir. Et le cinquième opus va sortir. Hein. On l'attend avec impatience. Bolivar prit place sur le siège du chariot, son calibre 10 posé sur les genoux. L'expérience lui avait appris que quand les ennuis arrivent, il vous tombe dessus à toute vitesse. Aussi préférait-il garder son revolver à portée de main pour les tenir en respect.
Très bonne mise en bouche. C'est la littérature western d'une manière générale qui vous touche ou c'est particulièrement les livres de McMurtry?
Non, mais c'est les livres de McMurtry et puis c'est la découverte de la littérature western qui était un genre qui était quand même très décrié. C'était un genre un peu roman de gare et c'est chez Gallmeister que Oliver Gallmeister a redécouvert les perles de la littérature, les a bien traduites. Et le Lompton Dove, c'est le Graal de la littérature western. On est vraiment pris dans une épopée hallucinante, quoi.
Le Graal, carrément.
Ah oui, le Graal. Franchement, c'est vraiment... Allez-y, attaquez-le. Et puis, vous n'attendrez qu'une chose, c'est d'avoir enfin l'opus numéro 5 qui sortira et qui clôturera l'histoire.
Attendez, vous placez ça au-dessus de Méridien de sang de Cormac McCarthy?
C'est mezzo. Ouh, c'est ouais. Mais c'est... Non, mais on n'est pas loin. Franchement, on n'est pas loin.
Ça va se régler en duel.
Non, on n'est pas loin. Et comme c'est extrêmement dense aussi, alors on rentre comme dans les séries, on rentre dans la psychologie des personnages qui sont absolument incroyables. Et du coup, il y a une densité de narration qui est vraiment très très. Et puis, alors, il y a une puissance aussi de rebondissement qui est parce que eux traversent toute une épopée du début vraiment du Far West jusqu'à la fin du Far West.
Ok, très bien. On va s'y jeter. Bouli, quittons le Texas, direction la région d'Oussouri, située à l'est de la Sibérie, à la frontière de la Chine. Parce que vous avez choisi comme film le Dersu Uzala d'Akira Kurosawa, sorti en 1975. Charline, ce film a aussi pour titre L'aigle de la taïga. Pourquoi faut-il préférer l'homme au volatile?
Je n'en ai aucune idée, Antoine. Et pour ce qui est du film, c'est l'adaptation du récit autobiographique de l'officier topographe Vladimir Arseniev, chargé par l'armée impériale russe de faire le relevé de terre, alors encore inexplorée, dans la vallée de l'Oussouri, à la frontière chinoise.
Dersu Uzala is a story of friendship and respect. Set against the breathtaking backdrop of Siberia's majestic wilderness, this story of an army engineer and his guide is told on an intimate, human scale. Side by side, they battle nature's savage forces and its infinite mystery.
Alors, Dersu Uzala, on a entendu une bande-annonce en anglais, un film japonais qui se passe à la frontière. Ok, d'accord. Bouli, pourquoi ce Kurosawa-là en particulier?
C'est une très belle histoire d'amitié très forte. Et là aussi, bon, on est dans le regard d'un topographe russe. Et c'est aussi la traversée d'un continent... qui signifie aussi la fin d'un monde, parce que c'est l'armée russe arrive et on découvre les dernières tribus ouïghours, je pense, et c'est l'histoire d'amitié. C'est une espèce de eastern, c'est pas un western qui se passe à l'est. Et l'amitié est plus forte. On a la traversée des territoires par ces deux personnages, parce que le mec est topographe, il doit aller dans des contrées qui sont extrêmement lointaines. Et puis on a la force de cette amitié entre deux types de deux cultures totalement différentes, et c'est beau à pleurer.
Vous préférez ce Kurosawa-là à Ran ou aux sept samouraïs, évidemment?
Non, les sept samouraïs restent pour moi, mais c'est celui-là que je préfère, c'est celui-là qui me touche le plus.
D'ailleurs, en tant que Belge, vous aimez la sauce samouraï?
Bah, pas trop, je préfère la sauce banzai.
C'est quoi la banzai?
C'est la même, encore plus piquante.
Mettez-le à la bouche.
Mais puis il y a la sauce riche qu'on ne trouve qu'à Namur aussi.
La sauce riche?
Ouais.
C'est quoi la sauce
riche? C'est de la tartare avec du jus de betterave.
Oh.
Ouais. Et puis elle fait peur aux yeux, celle-là.
Vous donnez très très envie d'un seul coup. Bien, où en sommes-nous? La série. Oui, la série. Non, d'abord la musique. Okay. La musique. Alors, pour la musique, vous avez choisi comme chanson celle-ci, Bouli Lanners.
On va le dimanche avec l'isou blanche d'une chère Richard. Nous vivons sans gîte, goulement et vide. Comme le moineau haussant nos caprices.
Les Tuileries, c'est un poème de Victor Hugo mis en musique par Colette Magny, que vous connaissez, m'a-t-on dit, par cœur, là dans une version jazzy.
Ouais, moi j'ai une version moins jazzy que je préfère. En fait, je connaissais pas bien la poésie, j'avais beaucoup de mal à lire la poésie. C'est à travers Ferré, quand il a commencé à chanter Rimbaud, Verlaine et tout ça, que j'ai découvert, je sais pas, il y a une rythmique en musique qui permettait d'accéder à un truc auquel j'avais pas accès. Et puis après, j'ai découvert cette chanson de Colette Magny, je trouvais que le texte formidable, évidemment, c'était formidable parce que c'était écrit par Victor Hugo, mais elle a réussi à mettre en musique un truc, et j'adore les paroles de ces deux mecs. J'ai envie d'aller boire des coups avec eux, de rentrer dans les, voilà, d'aller me battre avec eux dans les bistrots. Il y a un truc que j'adore dans cette chanson.
excellent parolier, Victor Hugo, très sous-estimé, mais...
C'est vrai.
Ouais, il a fait des très bonnes chansons.
Ouais. Il n'a jamais eu de victoire de la musique, non ?
Non, pas encore.
Non. Très bien, mais alors pourquoi avoir choisi cette chanson-là plutôt que votre guilty pleasure ?
Parce que je parle très mal portugais, tout simplement.
C'est tout,
ouais. Sinon, c'est celle-là que j'aurais choisi, évidemment. Oh, la honte, quand même.
Oh, il est tout rouge.
Je suis vraiment gêné d'avoir aimé ce morceau comme ça. Il m'a fallu des années
jamais.
Pour... Non, je sais, mais c'est pour ça que je l'ai dit, je l'ai affirmé, j'ai fait mon coming out. Mais pendant des années, j'ai pas osé dire que j'aimais ce morceau au moment où je repeignais mon premier appartement.
Il avait repeint au son de la lampe.
Ça passe à la radio, je trouvais ça super. Et pour repeindre, en tout cas, c'est très bien.
Voilà. Allez, on met encore un petit bout, allez. Bon, ça suffit. Revenons à la série. Dans les séries, vous avez choisi une série qui s'appelle Deadwood. Deadwood, c'est une série créée par David Milch et diffusée en France sur Canal+ à partir de 2006. Charline, bonne vieille série western, ça fait toujours du bien par où ça passe, comme on dit, non ?
Oui, absolument, Antoine. Fin 1870, cette bonne ville de Deadwood est devenue the place to be pour tous ceux que la fièvre de l'or a attiré dans les Black Hills. Une série western qui combine fiction et personnages ayant réellement existé. De Wild Bill Hickok à Calamity Jane, en passant par Seth Bullock, Al Swearengen, j'arrive jamais à dire ce nom, et Wyatt Earp. Et le 31 mai, HBO diffusera un téléfilm inédit qui viendra conclure les 3 saisons de la série.
No law at all in Deadwood. Gold you can scoop from the streams with your bare hands. People with cash on hand.
Welcome to fucking Deadwood.
Je note quand même un petit tropisme western, Woody Anders.
C'est vrai.
Ce n'est pas faux,
c'est bien observé. Je savais qu'on me poserait la question, je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être dû prendre une série un peu moins western, mais je me suis dit, c'est celle-là que j'aime bien. Enfin, j'en ai d'autres que j'aime beaucoup, Six Feet Under, The Wire, et tout ça sont les bonnes séries, mais c'est la première des séries où j'ai pris goût à la série. Et elle raconte très bien comment les États-Unis, en dehors de la loi, se sont constitués, puisque le début de l'histoire se passe au-delà, pas du Pecos, mais au-delà de la frontière où la loi existe. Et donc c'est comment une société se reconstitue dans un territoire totalement vierge de loi. Et c'est vraiment intéressant. Et effectivement, c'est argumenté, et c'est historique, parce que les personnages... Ouais, la ville existe toujours, je crois qu'elle n'a pas plus d'habitants maintenant qu'à l'époque, mais tous des personnages qui arrivent là-bas, dont Hearst aussi, qui est le grand-père de Patricia Hearst, était un type qui faisait des qui recherchent les minerais. Ce sont des gens qui sont toujours aujourd'hui dans l'actualité. C'est ça qui est impressionnant.
Vous aimez bien quand vous racontez des histoires et que ces histoires soient inscrites dans l'histoire avec un grand H, si je ne m'abuse.
J'aime bien quand ça flirte. Après, il faut que ça redevienne une fiction, mais j'aime bien quand ça flirte, comme dans les romans de Philippe Kerr, quand il parle la trilogie berlinoise. Voilà, tout ça, je trouve que c'est intéressant. Voilà, j'aime bien quand il y a une assise qui est historique. Et puis après, évidemment, il faut y échapper.
Et le téléfilm, vous l'attendez ou vous êtes passé à autre chose ?
Non. Bah, je suis passé à autre chose parce que ça a été diffusé il y a pas mal de temps. Mais la série a coûté trop cher. Ils n'ont jamais pu terminer. Je crois qu'il y a eu 3 saisons. Et puis là, je me réjouis de voir ce que va donner le téléfilm. Mais j'espère que les comédiens seront les mêmes. Moi, je me suis attaché à Calamity Jane. Ah, c'est le même ? Oui. Ah, bah alors, je me réjouis de voir la suite, oui.
Alors, je résume. Lonesome Dove d'Ersu Uzala, Deadwood et Colette Magny. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
The story of friendship and respect.
No law at all in Deadwood.
Set against the breathtaking backdrop of Siberia's majestic wilderness.
Gold you could scoop from the streams with your bare hands.
They battle nature's savage forces and its infinite mysteries.
Bolivar prit place sur le siège du chariot, son calibre 10 posé sur les genoux.
Welcome to fucking Deadwood!
Pas mal.
C'est pas mal, hein?
Ah,
ouais, c'est bien.
Ça manque un petit peu de lambada, quand même.
C'est pas obligé non plus.
C'est pas obligé. Non, c'est juste pour le plaisir. Bon, Bully Lanners, vous allez être déçu car on ne va pas écouter. On va écouter un morceau, pas de la lambada, non. Je suis désolé. C'est un morceau du jeune Québécois Hubert Lenoir et ce morceau, c'est Recommencer.
Les
Recommencer dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau signé Hubert Lenoir, notre petit chouchou, et extrait de l'album Darlene. Bully Lanners, avant d'aller plus loin, une question me taraude depuis tout à l'heure. Pourquoi, je répète pourquoi, vous êtes-vous fait tatouer une carte de l'Écosse et une bouteille de whisky sur l'avant-bras?
La carte de l'Écosse, parce que c'est plus simple que de sortir systématiquement la carte Michelin dans la voiture pour montrer à mon épouse où on est.
Car vous allez souvent en Écosse, donc.
Chaque année.
Chercher du whisky.
Non, parce qu'il est beaucoup plus cher là-bas. Non, le whisky, par contre, aller les déguster là-bas, trouver les bons whiskies, et puis après les acheter dans un endroit où les accises, donc les taxes, sont moins chères.
Est-ce que vous savez qu'on fait aussi du whisky, je sais pas, moi, au Japon, en Irlande?
Je bois du whisky japonais, du taïwanais, le Kavalan, oui, je connais tous les whisky.
Donc vous avez une map monde tatouée sur le corps, si je comprends bien.
Non, celui-là, c'est le mien.
Ah,
j'ai
le vôtre.
Oui, celui-là, c'est le mien. J'ai fait distiller 200 litres de whisky qui attendent depuis 6 ans en barrique et je vais les faire vieillir bientôt dans des fûts de mourri. Et les bouteilles sortiront dans 2 ans, mais uniquement pour faire de l'échange ou des cadeaux à ceux qui l'ont mérité.
Bah écoutez, on vous attendra avec impatience. Hein.
Encore 2 ans.
On tiendra. Bon, Bouly, je le disais, vous tenez le rôle principal dans le nouveau film de Claire Burger, C'est ça l'amour. Dans ce film, vous êtes Mario, même si vous ne vous sentez pas super.
Excellent.
Okay. Vous élevez seul vos défis de vos deux filles depuis le départ de votre femme et vous rêvez de son retour. Bande annonce.
Tu veux dire que maman se casse avec un rôle pareil?
Repose-toi de moi, d'accord? Moi je m'occupe des petites.
Je reste joignable pour vous.
C'est cool la vie sans nom? Tu kiffes au bar et tout, tu fais la fête?
Tu peux pas parler comme ça, Nicky.
Mais si.
Si je suis green, ça fait quoi?
Tu sais pas ce que t'es.
Mais ta gueule, connard!
Toute la vie, c'est vous aimer.
C'est ça l'amour de Claire Burger, un film qui nous a beaucoup touchés ici. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, une fois de plus, question à la Augustin Trapenard. Pour vous, Bully Lanners, c'est quoi l'amour?
Ben l'amour, c'est le film, en fait. C'est, je pense que cette mosaïque de relations amoureuses, de déclaration d'amour, de non-déclaration d'amour, de constat aussi d'un amour qui s'en va, de la possibilité de laisser partir quelqu'un, tout ça, c'est toute cette mosaïque est une des réponses potentielles à une question à laquelle on ne peut pas répondre.
Très bien. Alors, attendez, il y a le boomerang qui arrive là. Baissez-vous. Hop, hop.
Merci. Votre réalisatrice Claire Burgier raconte que lorsque vous avez décidé de vous voir pour parler du film, vous avez immédiatement proposé que cette rencontre ait lieu à Forbach, où se déroule le film, plutôt qu'à Paris. Le lieu était pour vous absolument indissociable de l'histoire ?
Pour elle aussi, mais je sentais bien qu'il était inutile de passer par la case parisienne pour se rencontrer, donc autant aller directement au charbon.
Vous avez d'ailleurs tourné dans la maison du père de Claire Burgier, l'inspiration derrière le personnage de Mario. Comment est-ce qu'elle vous l'a raconté ?
À la Claire, c'est sans filtre. Donc on est rentré, elle m'a présenté son papa, elle a éjecté son papa et puis on est resté dans la maison.
Le vrai père de Claire Burgier fait une discrète apparition dans le film. Il vous a donné des conseils ?
Non, pas du tout. Mais quand j'ai rencontré le père de Claire, qui ne me ressemble pas du tout, il joue dans le film, il fait le monsieur qui tient un talkie. Ouais. Il est grand, filiforme, donc c'est pas vraiment.
On n'est
pas.
Si, c'est tout à fait vu.
Oui, heureusement qu'on est en radio. Ah, mais il y a des caméras. J'ai compris ce qu'elle voulait, ce qu'elle cherchait chez moi. Et puis elle me l'a dit, un truc que qu'elle a pu déceler que je ne connaissais pas.
C'est-à-dire ?
Ce regard enfantin. Ce petit truc d'adolescent qui traîne dans le fond du regard. C'est elle qui le dit, hein, c'est pas moi.
Elle a tout à fait raison. Ouais. Non, elle a tout à fait raison et en plus elle le filme très bien.
Ouais.
Parce qu'il y a une innocence dans le regard de votre personnage qui le rend absolument craquant et touchant.
Et c'est ce qu'on ressent quand on rencontre le papa de Claire.
Okay. Dans le film, vous êtes entouré d'acteurs amateurs, des habitants de Forbach. Claire Burgier n'avait d'ailleurs pas l'habitude de diriger des comédiens professionnels. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit à votre manière de travailler ?
Non, si ce n'est qu'au début, je me suis mis dans une espèce de parano inversé où je me demandais pourquoi est-ce que j'allais être à la hauteur des non-professionnels puisqu'elle trouvait son bonheur en travaillant avec des non-professionnels et pourquoi est-ce qu'elle me demandait à moi de jouer dans le film. Et pour le reste, c'est juste être un petit peu plus attentif à ceux qui ne connaissent pas encore le protocole d'un plateau, mais après deux jours, c'est réglé.
C'était le pro, quoi.
Ouais, mais pas longtemps.
Hein. C'est que vous aimez pas ça.
Non, je déteste.
Vous êtes le personnage principal de ce film, et ça semble fou, mais c'est une première fois. Le prix d'interprétation que vous avez reçu au Festival des Arcs, dont on parlait tout à l'heure, a dû avoir une saveur particulière.
Une saveur de Ginépi.
Une
saveur de Ginépi, oui. Tout le monde nous embrassait.
Vous l'avez bien fêté,
On l'a bien fêté. Ouais. Oui. Et puis on s'est chopé les microbes de tout le monde et on est rentré malade. Ouais.
Vous incarnez dans ce film ce qu'on peut qualifier de héros du quotidien, un type normal confronté à une situation pas si exceptionnelle, une séparation, un papa de type délicat, un peu fragile, un rôle qui propose une réflexion sur la masculinité pour le coup assez singulière. Quelles questions est-ce que vous êtes posées quand vous avez accepté le rôle de Mario et à quoi est-ce qu'il a fait écho ?
Il a fait écho à deux trucs, un sentiment de paternité que j'ai et que je n'ai jamais exploité puisque je ne suis pas papa, donc j'ai pu le mettre au service du film et je sentais que ce sentiment, ce potentiel était là. Et puis d'une autre part, c'est un éclairage féminin sur la part féminine d'un homme et ça c'est quelque chose qu'on ne m'avait jamais proposé de faire et c'était assez agréable d'explorer ce côté-là de ma facette. Quoi.
C'est ça, on ne vous propose quasiment jamais de rôle d'homme vulnérable, c'est pas ce qu'on projette sur vous.
Si, mais souvent, pas à travers le regard d'une femme. Ici, il y avait, c'est le combiné les deux qui donnent quelque chose de très particulier.
Sinon, vous en êtes où dans votre vie de couple ?
Ça va. Ça va très bien, oui.
Tout se passe bien ?
Oui, très bien. Oui, bien, bien, merci. Oui.
Vous voulez qu'on en parle ?
Non, ça va. Ça va.
On en reste au cinéma.
Oui.
Alors, un type ordinaire, dans une situation extraordinaire. D'ailleurs, comment le définissez-vous, ce film ? C'est quoi ? C'est une comédie dramatique ? C'est un documentaire fictionné, presque ?
Trapenard ?
Non, c'est Antoine.
Antoine, pardon. C'est difficile de définir un film. Je trouve que c'est le mettre dans un tiroir. Ouais, c'est déjà tellement dur de faire des films. Parce qu'on a chaque fois justifié. Mais votre film, c'est quoi exactement ? Je ne sais pas. C'est un film qui suscite un tsunami d'émotions. C'est tout ce que je peux retenir. Mais il y a des choses très très drôles. Il y a des choses moins drôles. Mais ce n'est pas un film dramatique. Ce n'est pas un film social du tout. C'est un film qui ne parle que du sentiment. Mm-hmm. Je pense que c'est un nouveau genre, en fait. Un film de sentiments purs.
Ben voilà. Vous l'avez défini ? Voilà. Alors, Bolly, c'est un film qui raconte une histoire vieille comme le monde et qui est pourtant d'une grande modernité, totalement en phase avec l'époque et la sensibilité du moment. C'est ce qui en fait la force, à votre avis ?
Oui, je pense que ce qui en fait la force aussi, c'est effectivement de mettre en scène un personnage masculin en l'extirpant des stéréotypes dans lesquels souvent on est. C'est dur d'être une femme aujourd'hui, mais c'est dur aussi d'être un homme. Parce qu'on nous cantonne dans des choses un peu fortes. Ici, on est dans tout à fait autre chose. Et ce genre de personnage est rarement mis en lumière au cinéma.
Mmh. Vous voulez qu'on parle de votre vie de couple ?
Mais quelle est cette obsession, Antoine ? On sait à quel point il peut être compliqué de communiquer avec cette espèce à part que l'on nomme les adolescents, qui plus est quand ce sont des filles. Comment s'est fait la connexion avec vos épatantes filles de fiction ? Elles sont absolument formidables.
Ah, elles sont formidables. Bah, c'est mes filles, c'est normal.
Ouais. ah oui, c'est allé jusque-là.
Ah, oui, bah, on a tissé un rapport très fort, vraiment un rapport très filial. Elles sont venues à la maison, on a créé pendant une semaine cette vraie intimité de famille. Donc elles sont venues à la maison avec Claire et l'assistante de Claire, Cynthia, et on a recréé le quotidien. On se faisait à manger, passer à la douche après les autres, se brosser les dents, ce truc, faire les courses, tout, pour créer. Mais ça aurait pu ne pas marcher, c'était très théorique aussi ça. Mais le hasard de la vie, le miracle des chimies ont fait qu'on a tissé des liens très très forts, et pendant tout le tournage, j'étais réellement leur papa.
Vous dites qu'il y a 50 ans, on aurait fait un film sur le personnage de cette femme, sur les raisons de son départ, du domicile conjugal, et qu'on l'aurait jugé. Ici, on ne la juge pas, c'est un film en fait sur vous, sur le personnage de celui qui reste, qui est abandonné, Mario.
Oui, c'est ça qui est intelligent et courageux de la part de Claire, et c'est presque un acte politique aussi, d'avoir une dame qui se casse, qui abandonne sa famille, qui abandonne ses enfants. C'est pas elle qu'on suit, on ne la juge pas, ni la réalisatrice, ni son mari, Mario, et on reste avec l'homme.
Les filles s'en privent pas, hein.
Non mais c'est bien, il faut qu'il y ait ça aussi, mais en même temps, il n'y a rien de manichéen dans le film. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un de mauvais, quelqu'un de bon. Tout le monde fait avec s'il peut.
Mm-hmm. C'est surtout qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi ils se séparent. Il y a une raison qui a l'air d'être évidente pour eux, mais c'est pas
dans le narratif. Moi, je me suis fait fait mon personnage. Moi, je comprends pourquoi elle m'a quitté, mais ça n'intervient pas du tout dans la narration du film.
Mario participe à une pièce de théâtre dans le film Atlas, dont le dispositif est très particulier. La pièce se crée avec les habitants d'une ville, dans un processus où chaque participant doit trouver une phrase qu'il raconte. Si on se livrait à l'exercice là, maintenant, Bouly Lanners, quelle phrase énonceriez-vous tout de suite ?
Je suis un cow-boy. Voilà,
c'est pas mal.
Genre Deadwood ou
McMurtry ? Ouais, genre McMurtry. Genre Gus dans McMurtry, ouais, je l'aime beaucoup.
Quel genre de cow-boy d'ailleurs vous seriez ?
Bah, comme Gus, un cow-boy romantique. Mais en même temps, quand il faut passer à l'acte, il faut passer à l'acte, quoi.
Ouais. Oui. Vous rêvez quand on vous propose un western ?
Oh, je rêve de ça, oui. J'aimerais tellement faire ça.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?
J'ai pas trouvé un producteur, un scénariste, un réalisateur qui me prenne, qui m'embauche et
puis qu'on fasse ce film.
Bah oui, les Européens
s'y mettent. Mais c'est fait.
Bah, ils peuvent faire un deuxième, on sait jamais.
Est-ce qu'il aura envie ? Bah, on peut lui demander, voilà. Hein, oui. Bah,
Jacques, écoute, oui. Bah, il nous écoute, bien sûr qu'il nous écoute, Jacques, puisque tu nous écoutes. Voilà, Bouly voudrait jouer dans ton prochain western. C'est possible ?
Bah oui, c'est
après
bien.
Après les Brothers Sisters, c'est ça ?
Voilà, on voit les dates et puis...
Moi, ce qui m'a frappé également dans C'est ça l'amour, c'est que tous les personnages sont d'une grande honnêteté. C'est-à-dire que tout le monde se dit ce qu'il a sur le cœur, sans filtre. Et au final, c'est ce qui soude les personnages, alors que la vie tend à les séparer. Est-ce que c'est aussi le mode de fonctionnement que vous avez mis à l'œuvre avec Claire Burger, la réalisatrice, dans le travail ?
Mais je pense que Claire fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'elle elle a pas ce filtre que nous on a parfois. Et donc du coup, les choses sont dites comme ça, très clairement, mais sans agressivité du tout, sans agression, avec beaucoup de bienveillance, mais les choses sont dites. Et elle est née dans un milieu comme celui-là. Donc je pense qu'elle est simplement le reflet, et elle transmet ce qu'elle a connu en étant, elle, petite, quoi.
Sinon, votre vie sentimentale,
ça fait 19 ans que je suis avec ma femme. Et on est super bien. Voilà. Elle s'appelle Élise.
Et elle s'appelle Élise.
Elle est merveilleuse.
Et elle nous écoute.
Elle nous écoute, j'espère. Non, pas ensemble.
Bouly, on va continuer à parler dans quelques instants. Mais pour le moment, j'ai une question technique à vous poser. Est-ce que vous savez faire ça ? Ah bah oui.
Ah, ça, c'est ah oui, un il pop. Était bien, il était franc.
Ah, c'est bien. Ah, ça, c'est vous pouvez le garder, le réutiliser.
Oui, c'est un pop qui en impose ça. Bon, très bien. Mais c'est pour le moment des pop news.
Si vous avez des enfants en bas âge, sans doute avez-vous déjà subi Dora, cette petite exploratrice un peu pénible, dotée d'un sac à dos. Pour les autres, réjouissez-vous ou pas, vous allez bientôt pouvoir la rencontrer au cinéma. L'héroïne tout droit sortie des dessins animés pour enfants de la chaîne Nickelodeon arrive sur grand écran. Bonne idée, je vous laisse juger. Voilà la première bande-annonce du film. Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l'épreuve la plus difficile de sa vie, l'entrée au lycée.
Tu connais la jungle ? Ça fait partie de toi. Mais l'exploration, ce n'est pas un jeu. Si tu ne regardes pas où tu mets les pieds...
Non ! Je vais bien, Babouche.
Babouche, vous l'aurez compris, c'est le singe de Dora, oui. Bien évidemment. À noter que dans le rôle, dans la voix de Shipper, le renard voleur, on pourra entendre Benicio del Toro en VO. Voilà, Dora et la Cité perdue, ce sera sur les écrans le 14 août.
Et la reprise du jour, c'est au groupe Vampire Weekend qu'on la doit. Lors d'un récent concert londonien, le trio new-yorkais s'est attaqué à Paul Simon et son titre « Late in the Evening ». Nouvel album de Vampire Weekend, Father of the Bride, sortira le 3 mai. Le groupe sera en concert au Zénith de Paris le 16 novembre prochain.
Meilleure nouvelle du mois, voire de l'année, le tournage de la saison 3 de Platane, l'excellente série d'Éric Judor, a démarré. Dans cette saison 3, on nous annonce un Éric réalisateur ayant revu ses ambitions à la baisse. Il se croit affligé d'une malédiction et entreprend donc un voyage initiatique et une expérience chamanique annoncée au casting de cette saison d'anthologie. Ramzi Bedia, Jamel Debbouze, Boris Dio, Florence Foresti, Mike Horn, Mathieu Kassovitz, Laurent Lafitte, Gilles Lelouch, Roland Magdan, Elie Semoun, Fred Testo et Jacques Séguéla.
France Inter. On peut pas. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
Jacques Séguéla.
Non, pas du tout.
Ah, pardon, je ne l'ai pas alors.
Dora l'exploratrice.
Non, pas du tout. Mais alors, à aucun moment.
Merci, Charline. Bouly Lenders, vous êtes avec nous jusqu'à 17h. Et pour l'heure, on écoute dans sa version originale, Honesty, un morceau de Billy Joel à retrouver sur la BO du film C'est ça l'amour.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon.
Mostly what I need from you.
Von Esty. C'est un morceau de 78, extrait de l'album 52nd Street de Billy Joel. Et c'est un morceau qu'on peut écouter dans le film C'est ça l'amour.
Oui.
Il tombe à un point incroyablement nommé, non?
Oui, mais je ne vais pas le révéler.
Non, mais il raconte quelque chose quand même, ce morceau avec cette chorale d'enfants.
Ouais.
Ouais.
Bah, oui, oui.
Ouais,
mais on ne va pas en parler.
On va pas en parler. On va pas en parler.
Peut juste dire que vous avez pleuré.
Bah, c'est, oui, c'est assez émouvant quand même.
Oui, c'est non vrai. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais
cœur
moi-même.
De Pierre,
non, pas du tout.
Cœur de Pierre.
Pas du tout.
Alors, vous préférez Elton John, si j'ai bien compris?
Parce non, pas du tout. Non, non, non.
Non, 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 parce qu'on se parle. On se parle pendant que les disques sont diffusés.
On ne devrait pas.
Non, mais vous avez. Qu'est-ce que vous avez fait de cette collection de disques d'Elton John que vous avez trouvé dans une cave?
Elle est toujours à la maison. Je l'offrirai un jour à quelqu'un qui le mérite.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ben, je suis arrivé dans une maison, je faisais des repérages pour mon film, et il y avait une maison abandonnée dans le fond, comme il y a souvent en Écosse, la petite maison du fond qui était à l'atelier, mm-hmm. complètement à l'abandon, dans laquelle il pleuvait. Il y avait là une centaine de vinyles. Mm-hmm. Et quand j'ai regardé les vinyles, je me suis dit, c'est que des bons vinyles. Mm-hmm. Mais je suis repassé en Écosse 6 mois après, la maison était toujours là, en pire état, les vinyles étaient toujours là, puis je les ai pris. Quoi. Mm-hmm.
Dont la collection intégrale des disques d'Elton John.
Ouais, mais d'autres choses vraiment bien, dont des originaux des Stones, des Who, des pressages originaux londoniens, dont un tout vieil album, un best-of des Bee Gees, mais où ils étaient 4, mm-hmm. ce que je ne connaissais pas, et j'ai beau regarder sur Wikipédia, on n'en parle jamais, et c'est vachement bien, c'est très folk en fait.
John McKenzie, je sais que vous nous écoutez aujourd'hui, voilà votre collection de disques qui a disparu.
Elle est chez moi, elle est chez
Bully.
Venez nous boire un whisky, on en discutera. Voilà.
Bully, après le tournage de Tueur de François Troquinze, dont nous avions dit ici le plus grand bien, vous avez exprimé l'immense plaisir que vous aviez eu à jouer un vrai méchant. Est-ce que c'est une expérience que vous comptez bientôt réitérer?
Ah, j'aimerais bien refaire un méchant, c'est très très drôle en fait à faire, parce qu'on joue un truc qu'on n'est pas du tout et on fait jouer le méchant depuis qu'on est petit, c'est mmh. ça qu'on aime, donc en fait de le faire dans un film c'est super.
Alors quel genre de méchant?
J'ai fait un méchant dans Chien aussi, où je fais vraiment presque un psychopathe, c'était pratiquement coup sur coup, donc j'ai fait deux types de méchants, mais je peux faire encore plein d'autres types de méchants.
Mmh. Non, mais comme vous êtes vous-même réalisateur, peut-être pouvez-vous écrire un rôle sur mesure de bad boy.
Ouais, mais je pense que les meilleurs rôles que j'ai, c'est quand même quand je suis au service de quelqu'un d'autre. Mmh. Là. Je trouve que c'est plus facile.
Bully, tant que je vous tiens, Benoît Poulvorde, François Damiens, Virginie Efira, Cécile de France, Jérémy Régnier, Jean-Claude Van Damme, Mathias Schoenaerts, Olivier Gourmet, Yolande Moreau, Stéphane De Groot, que des Belges. Comment est-ce que vous définiriez, si vous aviez à le faire, cette Belgian touch?
Genre, c'est foutre rien, je ne sais pas du tout, mais en même temps, je pense qu'il y a eu Jacques Brel avant, il y a eu Simenon, il y a eu Hergé, il y a eu toujours des Belges qui sont venus travailler en France, et parfois Annie Cordy.
Non, mais je suis d'accord avec vous, il y a toujours eu des Belges qui ont eu du succès en France, mais là, je vous parle de comédiens. Est-ce qu'il y a, dans vos yeux à vous, une approche particulière du jeu?
Non, parce que quand on prend les itinéraires de François, de Benoît ou de moi, on n'a pas fait d'école. Mm-hmm. Gourmet a fait le conservatoire de Liège. On a tous des parcours très différents, y compris pour les femmes. Mm-hmm. Non, je ne sais pas du tout. La seule chose que je retiens quand même qui est très particulière, c'est que tous les mecs sont restés en Belgique et toutes les filles habitent en France.
Qu'est-ce que ça raconte, ça?
Alors ça, on est des bourrins, nous, je sais pas, on n'ose pas quitter chez nous. On reste tous en Belgique. Tous les comédiens belges qui marchent en France habitent en Belgique.
Moi, je vois ce qui peut plaire, c'est-à-dire qu'en même temps, vous avez l'art d'exercer votre profession très sérieusement, tout en donnant l'impression de ne pas vous prendre au sérieux, tous autant que vous êtes, les noms qu'Antoine vient de citer.
À force de dire qu'on ne se prend pas au sérieux, on finira par se prendre au sérieux.
Et donc avoir
c'est un débat,
et,
et moi, c'est un débat dans lequel j'ai très peur de m'engluer.
Non, mais pour le moins, on a l'impression qu'il y a une distance quand même. Vous gardez à distance le rapport à la notoriété, la...
En Belgique francophone, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une culture qui met en avant... On est reconnu en Belgique francophone quand on passe par la France. À partir de là, on peut être reconnu en Belgique francophone. Mais comme ça, ce n'est pas un pays de reconnaissance. Nul n'est prophète en son pays. Je pense que c'est vraiment un proverbe belge. Quoi.
Mm-hmm. Bully Lanners, vous êtes très engagé, et ce depuis longtemps, sur les questions d'environnement. Vous avez soutenu les marches pour le climat, la cause est vitale. Est-ce que vous avez l'impression qu'on arrive à une forme d'échéance?
On n'arrive pas, on y est. Je pense qu'on n'est pas au bord du précipice, on est en train de sombrer. Donc là maintenant, c'est essayer de faire en sorte que les dégâts soient les moins irréversibles possibles. Mais on est déjà trop loin.
Mais là, on est ravis de vous avoir aujourd'hui parce qu'en fait, vous sortez d'une garde à vue.
Une petite garde à vue.
Vous trahissez aucun secret, hein, parce que vous avez manifesté pas plus tard qu'hier soir à Bruxelles.
Oui.
Vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances, comment,
Il y a eu beaucoup de marches pour le climat en Belgique, notamment toutes les marches faites par les jeunes, mais aussi des marches qui ont été faites précédemment. Il y a eu une défection du gouvernement à la COP24 où ils se sont retirés les accords dans lesquels ils s'étaient inscrits. Et puis il y a une loi climat que le gouvernement promet suite à cette pression citoyenne. Et on vient d'apprendre que pour des raisons de législation, en fait, la Belgique se retranche de nouveau derrière la complexité de sa législation pour ne pas acter. Mmh. Et donc hier, ben, simplement, il y a eu une prise, il y a un périmètre interdit en face du Parlement en Belgique, dans lequel il est absolument interdit de manifester, et on a pris de force ce périmètre et on s'y est installé pour la nuit. En fait, on y est toujours jusqu'à mardi, jusqu'à ce que la Belgique vote la loi climat.
Alors ça, on a déjà basculé, venez-vous de dire. Pour autant, vous ne perdez pas espoir, parce que vous continuez à manifester, à agir. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre vie, au quotidien ?
Je manifeste, j'ai des coups de gueule sur Facebook.
Vous avez interpellé assez vivement...
La ministre de l'énergie, qui est vraiment devenue ma grande amie. Mais en fait, en Belgique, on n'a pas une ministre de l'énergie, on en a quatre. Donc on a déjà, dans un pays quand même très particulier, il y a quatre ministres de l'énergie qui ne sont pas des mêmes partis. Mm-hmm. Donc forcément, rien ne se résoudra jamais. Et absolument, le premier pas, c'est cette loi climat qui ne suffit pas, ne peut même pas être engrangée. Donc il y a vraiment un blocage des institutions qui fait que les débats qui sont beaucoup plus larges n'arrivent jamais à trouver une solution. Mm-hmm. Parce qu'on se retranche derrière cette complexité qui commence à nous saouler en Belgique.
Et si ça bascule pour de bon ?
Ça va basculer petit à petit. Il faut se préparer à un changement sociétal parce que le réchauffement climatique, c'est quelque chose, mais ça va surtout avoir des conséquences géopolitiques terribles. Et c'est celle-là, il faut s'y préparer. Donc de toute façon, celles-là arriveront. C'est-à-dire des crises migratoires qui seront absolument énormes et puis alors une désertification et puis des conséquences économiques aussi parce qu'on est arrivé au-delà du pic d'exploitation de tous les minerais. Donc il va arriver ce point qu'on appelle un point de rupture entre l'équilibre, le coût d'extraction des minerais et le coût de rendement d'un produit une fois qu'il est terminé risque de ne plus exister, donc c'est la fin du bénéfice. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent arriver.
Le processus s'accélère, vous avez l'impression que la prise de conscience s'accélère aussi ?
Pas assez, parce que ce ne sont pas les jeunes qui, quand ils seront au pouvoir, pourront changer les choses, c'est les gens qui sont au pouvoir maintenant qui doivent changer les choses. Donc il faut que ça se fasse maintenant. Et le processus d'accélération au niveau des catastrophes écologique va de plus en plus vite, mais le processus d'accélération dans le chef des ministres et des hommes politiques, là, ça n'accélère pas du tout. Il y a une grande différence de rythme entre ce qui se passe réellement et entre la façon dont on perçoit l'avenir. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une société consumériste où on associe le bonheur à la masse de choses qu'on peut acheter ou posséder, ben on restera dans une économie qui prônera la croissance. Or, je pense que si on n'inclut pas dans l'équation un processus de décroissance, on n'arrivera jamais à rien résoudre.
D'où ce stockage de whisky ?
Ah, pour moi, il y a du stock. Il y a du stock de tout. Là, je passe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, j'ai ramené 40 kilos de fleurs de sel aussi. Mais ma maison est ouverte.
Bon, j'ai vu, je change tout à fait de sujet, mais j'ai vu sur Instagram une photo de Gibus, votre chien, en train de s'accoupler.
C'est fait. Et il est papa.
Mais oui, mais vous postez ça sur Instagram.
Oui, oui.
Et vous respectez pas son intimité, donc.
Non, mais c'est à sa demande.
Ah, c'est à sa demande. C'est à la demande de Gibus. Très bien, d'accord. Bon, ok, parfait. Dites-moi, Bouli. Ah, oh là là, mais c'est déjà l'heure pour moi de descendre à la cave. L'heure de la fin de l'émission approche. Bon, allez, j'y vais. De ce pas, ne bougez pas. Il y a un petit chien, mais c'est Gibus.
Bah, Gibus, qu'est-ce que tu fais là ?
Mais c'est le chien de Bouli. Mais il sait que tu es là ou pas ? Quoi ? Il faut pas lui dire ? T'es venu te réfugier dans ma cave, mais pourquoi ? Comment ça, ton maître te harcèle ? Photographie tout le temps. Mais comment ça, Bouli poste des photos de toi en train de niquer ? Oh, mais c'est un voyeur ! Bah oui, j'avoue que c'est pas cool du tout. Bon, ben voilà, t'es mieux ici, non ? Ah, peut-être pas. Là, Henri. Henri, Gibus, Henri. Oui, alors, fais gaffe, Gibus, parce qu'Henri a une libido un peu, comment dire, tout terrain. Non, oula. Non, Henri, calme-toi. Tu vas l'abîmer. Non, mais invite-le d'abord à prendre un verre, je sais pas. Henri, enfin ! Bon, ok, alors une petite photo. Elle est comme Bouli. Et hop, sur Instagram. Bon, je vous laisse finir votre affaire. Bon, je vais juste écouter un dernier Scott Walker.
Mama, do you see what I see? On your knees and pray for me. Matilda's come back to me. Charlie, don't want another beer. Tonight I'm gonna drink my tears. Matilda's come back to me. Go ask the maid if she heard what I said. Tell her to change the sheets on the bed. Matilda's come back to me. Fellas, don't leave me tonight. Tonight I'm going back to fight. Wretched Matilda's inside. My heart, stop beating so. Just make as if you didn't know. Matilda's come back to me. My heart, I don't want you to say she's lovelier than when she went away. Matilda, come back to me. My heart, stop being overjoyed. Remember you were once destroyed by Matilda, who's come back to me. Fellas, please don't go away. Tell me that I mustn't stay. Matilda's coming back today. My hands just start to shake again when you remember all the pain. Matilda's come back to me. You wanna beat her black and blue, but don't you do it, I beg of you. Matilda's come back to me. My hands remember all the years. Remember when you caught my tears. Matilda's come back to me. My hands, you wanna touch her now, but please try and be strong somehow. Matilda's here, she's coming now. Matilda's come back to me. Charlie, champagne right away. I know you've been saving it for a holiday, but Matilda's come back to me.
Mathilde, la reprise de Brel hein, par Scott Walker pour terminer ce pop-pop-pop. C'est extrait de l'album Scott 1 quand il s'est lancé dans sa carrière solo. Voilà, Bouly Lanners, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser ici comme souvenir?
J'ai
déjà le chien.
Le collier, le cul, là, le petit cucu, je vais vous laisser ça. C'est son petit cochon.
Un petit cochon
qui le rend complètement fou et qui nous rend complètement fou aussi.
Ah, mais c'est pour ça
et que je vais vous laisser. C'est pour ça que ça marche bien entre eux.
Très bien.
Je vous laisse cucu, il s'appelle cucu.
Ok, cucu. Voilà. Très bien. Merci infiniment, Bouly Lanners. Merci d'être passé par le studio. C'est ça l'amour, le film de Claude Burger sort mercredi. Il est chaudement recommandé par Pop. Merci à l'équipe de Pop. Ghislain Fontanus à la réalisation. À la technique Grégory Wallon, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Alice Delcourt, notre stagiaire. Demain dans Pop.
Eva Green et Tim Burton sont nos invités.
Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve à la pointe, suivez-nous, plutôt comme disent ceux qui font des tutos pour apprendre à danser sur la lambada. La lambada sur YouTube. Et à moi, abonnez-vous à
notre podcast. On a dit pas les accents.
Non. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615, pop sur Instagram et Twitter.